What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get it easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, c'est factice. Proprio factice.
Bonjour à toutes et à tous, les cinéphiles du vendredi, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec fièvre et conviction. À l'affiche aujourd'hui des films de festival qui en cachent d'autres, avec celles et ceux qui remportent haut la main la palme de la critique. J'ai nommé Cathy, bonjour Cathy.
Bonjour.
Avec nous également Clotilde. Salut Clotilde.
Hello.
Et puis bien sûr, que serait un cinémascope sans Olivier? Bonjour Olivier.
Mais ce qu'il sera bientôt, bonjour.
Ne dis pas ça. Celui qui remporte, lui, chaque année le prix de la technique, Sylvain.
Bonjour.
Alors les films en lice aujourd'hui, La bataille de Gaulle, L'âge de fer, un mot quand même sur L'évangile de la Révolution qui a été chroniqué la semaine dernière par Julien, Jim Quinn, L'objet du délit et Nous l'orchestre. Allez, on commence tout de suite en fanfare.
Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur, ils veulent se battre.
La France n'a pas capitulé.
Vous n'êtes pas la France!
Nous sommes la France.
Vous?
Nous.
You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you step in.
La France n'est pas un enfant, monsieur le président. Elle a toujours continué à se battre.
Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers.
Perhaps we need to talk to Roosevelt.
No. Anthony, we need to win this war.
Une seule bataille décidera de tout, et je vous la confie.
À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi à chaque fois qu'il le peut fera relever ton commandement.
Je n'ai pas d'autre option.
Feu!
La bataille de Gaulle, L'âge de fer qui vient de sortir là le 3 juin, c'est le premier d'un diptyque puisqu'il y aura La bataille de Gaulle, J'écris ton nom, ce sera le 3 juillet. À l'affiche, alors on l'a entendu un petit peu, j'ai bien aimé l'une des critiques du Figaro qui disait c'est un film comme les Américains n'en font plus et comme les Français n'en ont jamais fait. On entend une sorte de blockbuster. Alors, La bataille de Gaulle, L'âge de fer, qui veut commencer? Est-ce que Cathy, qui l'a vu, chacun se renvoie la patate?
Oui. Non, mais tu peux...
Oui, c'est un film dont dans la bande-annonce, on le voit. La bande-annonce mélange d'ailleurs des passages des deux épisodes du diptyque, parce qu'on entend Leclerc, à un moment donné, donner l'assaut, alors qu'il n'est pas dans le premier volume. Bon, c'est un film qui est monté comme un film d'action, et qui mêle au film d'action deux drames. Le drame personnel de Charles de Gaulle, et le drame personnel de Fernand, qui est à Paris, et qui entre dans la Résistance, qui sera ensuite à Alger. Donc ça donne quelque chose de très copieux, en première approche, puisque, encore une fois, vous avez ce montage assez short-cut quand même, avec des épisodes d'action, et même les dialogues sont coupés assez courts, ce qui donne lieu à des phrases un petit peu lapidaires qui sont assez éloignées de ce que, je pense, les choses ont été. Je pense que les discussions avec Roosevelt et Churchill, c'était un peu plus compliqué que ces espèces d'envois de phrases bien senties. Voilà. D'ailleurs, bon, je regardais Cathy en face de moi, je sais qu'elle a comme moi lu les mémoires ou une partie des mémoires du général de Gaulle, et effectivement... Le général a contribué à lui-même à bâtir un petit peu sa légende, hein, mais alors avec quand même beaucoup plus de subtilité que le film, hein, où là, rien que le titre le dit, hein, la bataille de Gaulle, parlant de la bataille de France quand même, il s'agit de la bataille de France, hein, et puis il s'agira ensuite de la bataille de Metz, je suis assez bien placé pour savoir que ce sont surtout des Américains et des Canadiens qui sont morts. Donc, on a un truc un peu franchouillard, quoi, il faut le dire, hein, à la gloire de la France, où les Anglais et les Américains ont toujours un rôle un petit peu ambigu. D'un point de vue donc strictement historique, le film prend un certain nombre de libertés qu'à mon avis il aurait pas dû prendre. L'assassinat de Darlan par Fernand à Alger, il a absolument pas souligné que c'est un groupe de résistants monarchistes, hein, qui ont fait le coup. Ça donne quand même une toute autre couleur à l'événement. Là, on a l'impression que c'est un résistant limite FFI, quoi. Donc, on est perpétuellement, du point de vue de la réalité historique, quand on la connaît un petit peu, et quand on a lu en particulier De Gaulle, on est troublé par un certain nombre d'approximations, voire d'omissions, voire peut-être de contre-vérités, au milieu donc d'un truc assez boursouflé. J'ai envie de dire, bon, ça peut être un film d'action à aller voir pour ça, ça peut être aussi un film à voir parce qu'il rafraîchit un petit peu la mémoire. En particulier, il y a une chose qui est bien montrée, et je pense pas spécialement trop, qui est la solitude de De Gaulle à Londres quand il arrive. C'est un homme seul. Il est seul. Il n'a personne avec lui. Il est condamné à mort. Il est déchu de sa nationalité française. Enfin, je veux dire, il ne ressemble plus à rien, quoi. Et donc là, effectivement, le coup de force de De Gaulle, c'est ça. Et ça, c'est montré. Ça, c'est montré.
Oui. On va peut-être laisser la parole à Cathy. J'ai oublié de dire quand même que c'est un film de Antonin Baudry qui avait fait Le Chant du Loup et qui était...
Le Chant du Loup, c'est beau.
Et qui était aussi scénariste de Le Quai d'Orsay. Donc avec cette...
Ouais. D'accord.
Et qui interprète De Gaulle, c'est Simon Apkarian. On peut voir aussi Mathieu Kassovitz,
oui,
tu parlais de Darlan.
Il y a un casting 5 étoiles, hein, de toute façon, sur le film. Oui, là où je rejoins Olivier, c'est... Bon, alors, le bémol, c'est que les mémoires de De Gaulle, écrits par De Gaulle, bon, ça reste un homme militaire, et forcément, au niveau de la narration, là, adapter le film, il y a forcément un besoin, et puis c'est à qui ça s'adresse aussi, hein. C'est un film qui est censé être grand public, hein. Ça reste un film historique qui est focalisé sur De Gaulle, et je te rejoins sur le début, en tout cas des mémoires, et c'est un homme seul, et le film le montre très bien, c'est-à-dire qu'il est lâché de toutes parts. Et il a une vision, et que les autres n'ont pas, c'est clair. Et c'est ça qui est incroyable. Et ce que j'aime dans le film, c'est quand même que ça retranscrit vraiment très bien ça. Et cette superposition des deux personnages, c'est-à-dire de De Gaulle et de Fernand, qui vont se rejoindre à la fin du premier volet, je trouve que ça rend le film vraiment intéressant. Après, c'est vrai que c'est du grand spectacle. Il y a un peu trop de musique, ça accompagne énormément le public. Et encore une fois, moi, c'est toujours le bémol sur les films quand il y a trop de musique, parce que c'est bien la musique au cinéma. Mais il ne faut pas que ça soit... qu'à un moment, ça prenne le pas sur l'action ou sur la scène que l'on voit, comme s'il fallait dire au spectateur « Allez, là, c'est émouvant quand même, tu te rends compte, c'est fort, là, le moment... » Oui, mais enfin, ça, on le voit à l'image, on n'a pas besoin non plus d'avoir une musique qui se superpose et qui accentue cet effet. Donc là, moi, j'aurais enlevé les trois quarts de la musique, et je pense que le film aurait été encore plus réussi, enfin, franchement. Mais voilà, c'est un public, enfin, ça s'adresse à un public, à un grand public. Je pense que si on... Alors, évidemment, tout le monde n'a pas lu les mémoires de De Gaulle, et moi, modestement, j'en ai lu une partie, je ne suis pas encore allée au bout. Mais on apprend beaucoup de choses. Je pense qu'il y a... Alors, peut-être qu'on a oublié des choses qu'on a pu voir dans nos cours à l'école ou au lycée, ou au collège, je ne sais plus. Mais il y a vraiment plein de choses qu'on réapprend, et on voit à quel point c'était un homme déterminé et qui croyait en... Bon, évidemment, c'est très patriotique, hein, et la France... les Français. Mais voilà, c'est un homme déterminé qui a une vision que les autres n'ont pas et qui fait tout pour aller au bout. Et c'est cette ambiguïté aussi, ses relations avec les personnages et notamment avec Churchill, qui est vachement intéressante aussi dans le film, si on fait abstraction du grand spectacle voulu, souhaité, assumé. Ça reste quand même intéressant, enfin plus qu'intéressant historiquement.
La bataille de Gaulle, l'âge de fer, allez-vous faire votre propre opinion, puisque le film est à l'affiche au navire à Aubenas, et puis il sera à partir du 17 juin, c'est comme un appel aux Vences. Et oui, ça fait partie des films, parce que en entrée de jeu, je parlais de festival, enfin de films de festival. Donc, La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer était au Festival de Cannes, parmi d'autres films qui parlaient justement de la Seconde Guerre mondiale. On aura sans doute l'occasion de parler de Notre Salut.
Ah, bah alors là, oui, ça, c'est clair que là, on est dans une autre dimension.
Et de Moulin de Laszlo Nemes aussi. Fatherland, enfin bon, on aura l'occasion de parler de tous ces films.
Et Notre Salut, j'attends avec impatience, parce que là, effectivement, c'est, comme dit Cathy, c'est une autre dimension et une autre perspective, quoi.
On va parler d'un autre film et d'un autre mouvement collectif de résistance, c'est la théologie de la libération.
Oui, en deux mots.
Avec L'Évangile de la Révolution, dont Julien a parlé la dernière fois, un film de François-Xavier Drouet, qui t'avait donné envie donc d'aller voir ce film. Tu y es allé.
Absolument.
Sachant qu'il n'est plus à l'affiche actuellement, mais que vous pouvez le voir sur Tank, la plateforme de documentaires d'art et d'essai, qui est gratuite pour tous les arts des choix via l'abonnement de la médiathèque départementale. On t'écoute, Olivier.
On a bien entendu que c'est pas Cathy, c'est Sophie. Oui, j'essaye d'être rapide parce que je crois qu'il faut quand même donner un certain nombre de précisions. L'Évangile de la Révolution, c'est un titre qui est plein de promesses. C'est-à-dire, on a d'un côté donc l'Évangile, qui signifie la bonne nouvelle, donc on en a quatre canoniques dans l'Église catholique et d'autres églises chrétiennes, et puis on a tous les apocryphes, etc. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc il y a la bonne nouvelle de l'Emmanuel, Jésus est Dieu parmi nous, il y a la bonne nouvelle de la résurrection, etc. Il y a un certain nombre de bonnes nouvelles, celle du royaume, de la multiplication des pains, de tout ce qu'on voudra. Il y a des bonnes nouvelles. Et puis il y a la révolution, qui est un phénomène social, politique, économique, de retournement des rapports de force, où on rend la terre à ceux qui la cultivent, on rend les richesses à ceux qui les produisent, et on rend le pouvoir à ceux sur qui ils s'exercent. Voilà ce qu'est une révolution. Et le titre, évidemment, résonne comme une promesse intéressante, parce que d'évangile de la révolution, dans les évangiles, il n'y en a pas. C'est-à-dire Jésus n'est pas un révolutionnaire. Jésus n'est même pas un pauvre. Il est fils de charpentier. Il est appelé dans les évangiles, il est appelé maître, il est appelé seigneur. Enfin, ça n'a rien d'un pauvre. Alors, comment on transforme ça en promesse de révolution? Moi, je suis curieux. Alors, en fait, c'est un documentaire sur la théologie de la libération. On en a parlé avec Julien. Et la théologie de la libération, de la même manière, c'est un peu une licorne. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de théologie, c'est-à-dire discours sur Dieu, connaissance de Dieu. Et puis, la dimension de la libération, et là encore, il s'agit d'une libération sociale et politique. Et comment on fait vivre un centaure comme ça? Comment on fait vivre une ambition spirituelle, théologique, et une ambition sociale et politique?
Il faut juste dire que ça se passe dans les années 60 en Amérique latine.
Alors ça se passe en Amérique latine, donc Salvador, Nicaragua, Chiapas, Brésil, et justement, le Brésil est le seul cas qui est examiné deux fois, une fois pendant dans le corps du documentaire, une fois à la fin. Et je pense que à la fin, donc, de ce documentaire, on a la démonstration que l'évangile de la révolution, c'est bien un peu une licorne, c'est bien un peu une impossibilité, mais plutôt un chemin sur lequel on peut s'engager, mais en essayant de faire le moins de dégâts possible. Et c'est dommage que cet aperçu n'arrive qu'à la fin. Si on a envie de retourner le documentaire, si on avait cet aperçu final dès le début, on comprendrait les enjeux d'une théologie de la libération, on comprendrait mieux les postures de l'Église catholique, en particulier à l'égard de la théologie de la libération, et on serait beaucoup mieux éclairé sur tous les événements d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui, par ailleurs, et là, le documentaire est une excellente occasion de les voir, de voir le sous-commandant Marcos, de voir aussi comment, à quoi aboutit la révolution sandiniste au Nicaragua, et on sait que Jean-Paul II au Nicaragua avait quand même averti les gens sur les dérives possibles dictatoriales du régime sandiniste. Donc, encore une fois, si on avait eu le point de vue final d'un prêtre brésilien à la fin, si on l'avait eu organisateur de l'explication au départ, beaucoup de choses auraient été beaucoup mieux éclairées. C'est un petit peu cette déception, cette espèce de ce que ça laisse un petit peu de goût de d'y reviens-y comme ça, ce qu'on a envie de dire, oui, mais la même chose éclairée plus programmatique, quoi. Puisqu'on parle d'évangile de la Révolution, parlons d'évangile de la Révolution, quoi.
Les spectateurs sont des cinéastes à leur manière, hein, puisque tous les deux, vous refaites les films. Donc, Cathy, beaucoup moins trois quarts de musique en moins dans le film De Gaulle, la bataille magique. De Gaulle. Et toi, tu remontes le film dans le sens inverse. C'est ta révolution. Et oui, c'est ta révolution de l'évangile.
C'est ça, oui.
Une autre révolution des homosexuels qui deviennent hétérosexuels. C'est possible, ça? Je ne sais pas.
Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin! Hey, salut sexy! Salut, ça va?
Bonjour Jim! Ah! Je suis votre premier fan, je pourrais avoir un selfie?
Quel enfer!
Fais-moi mon tennis! Ah! Jim parfait à embrasser une fille!
Qu'est-ce qui m'arrive?
Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais.
Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose.
Quoi ?
Tu vas devenir hétérosexuel.
Moi seul, je peux sauver le monde.
Mais qui êtes-vous ?
Je suis ta prostate, Lucien.
J'ai quand même laissé ce petit extrait de fin qui m'a fait beaucoup rire. Jim Quinn de Marco Nguyen et Nicolas Attan. C'est un film qui était présenté en séance de minuit au Festival de Cannes. Et il me semble, après avoir lu la presse locale, que tu as beaucoup aimé aussi ce film, Cathy. Mais c'est toi, Clotilde, qui va d'abord en parler. Il était mardi dernier dans le cadre d'un autre festival, celui des Fiertés. Festival des Fiertés en partenariat avec le Festival Chapeau Melon et Bottes de Cuir et de Ciné Chardon. Il était au navire, donc tu l'as vu forcément, vous l'avez projeté, et il sera projeté à partir du 17 juin.
Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, une belle avant-première mardi dernier au navire avec beaucoup de gens et de super retours. Donc effectivement, il ne s'agit pas de révolution, il s'agit d'épidémie. Une épidémie d'hétérose qui frappe la communauté LGBTQIA+, du Marais. Et donc c'est une catastrophe. Alors voilà, moi c'est un film, c'est une comédie, c'est avant tout de l'autodérision. L'idée première du film, voilà, c'est vraiment que le rire, enfin l'humour est une arme très puissante pour débloquer les problématiques sociales actuelles. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que les co-réalisateurs, donc Marco Nguyen et Nicolas Attané, c'est leur premier long métrage en tant que réalisateur. Eux, ils sont surtout animateurs à la base. Ils ont fait de très belles choses, Le Sommet des Dieux, La Tortue Rouge, Le Chat du Rabbin, etc. Enfin voilà, ils ont beaucoup travaillé dans l'animation sur des longs métrages. Ils ont aussi pas mal fait d'animation sur des séries un peu plus trash comme Les Crados, etc. Voilà, et ils ont travaillé aussi en partenariat avec un studio d'animation qui s'appelle Bobby Pills et qui a aussi cette marque de fabrique un peu trash. Donc ils se sont bien retrouvés pour l'écriture de ce film. Ils y tenaient, ils y ont passé beaucoup de temps à l'écriture puisque donc c'est d'autodérision, je le disais, puisque Marco Nguyen fait partie de la communauté. Et il a lui-même animé beaucoup de soirées à Paris complètement folles et électrisantes. Et donc, c'est dans cet univers-là qu'on plonge dans le film immédiatement. Et voilà, en fait, c'est une plongée dans un univers qu'on ne connaît pas forcément si on n'est pas de cette communauté. Et le film se dessine, s'écrit comme une quête de sens, une quête d'identité, une quête aussi pour sauver le monde de la grave épidémie d'hétérose qui sévit. Donc voilà, on a tout un tas de personnages qu'on pourrait peut-être qualifier de très stéréotypés, mais qui sont vraiment des personnages que l'on rencontre au cours de notre quête et qui nous apprennent à découvrir tout un univers à travers le personnage de Lucien, qui est un petit... comment on appelle? Un twink?
Ah oui.
Enfin voilà, il y a tout un... Oui. Mais bref, un novice dans ce monde, dans cette communauté, et qui va donc la découvrir et se découvrir. Voilà. Donc on a aussi, pour incarner tous ces personnages qui guident Lucien, plein de comédiens, de personnes qui font du stand-up. Enfin voilà, Jim Quinn, donc cette icône de la scène gay, c'est Alex Ramirez qui l'incarne. Sa pote, sa super pote Nina, qui est vraiment un super personnage aussi, c'est Shirley Soignon, qui est une stand-upeuse, je ne sais pas si on le dit, mais voilà. Enfin bref, le dieu, la prostate, c'est Philippe Catherine qui lui prête sa voix. Et
je reconnaissais pas. Oui.
Voilà. Donc on a vraiment tout un tas de personnages très attachants. Voilà, Glamidia aussi est adorable. Elle représente les sœurs de l'indulgence. Je ne sais plus comment on les appelle exactement.
Les sœurs de la perpétuelle indulgence.
Voilà, tout à fait. Qui est un peu la bonne fée de Lucien au cours de sa quête. Donc vraiment un beau film, une super comédie où tout le monde se marre, tout le monde en prend pour son grade. Un film qui est donc à la fois drôle mais super politique. Et, tu as une question?
Ouais, est-ce qu'on devient hétéro après avoir vu le film? Parce que ça peut inquiéter ou au contraire...
Tout à fait.
Je ne sais pas.
Je ne répondrai pas.
Cathy, c'était un de tes coups de cœur, Canois, me semblait-il.
Et oui, parce que je n'ai pas fait la séance de minuit, mais je l'ai rattrapé plus tard et j'avais en fait, je suis allée, c'était pas, c'est à Cannes La Bocca, donc dans le cinéma qui est partenaire, le Cinéum, et quelques jours plus tard cette montée des marches là, et c'est vrai que j'avais entendu que du bien du film, et c'est vrai que ce qu'on peut, et c'est ce que j'avais mis un petit peu en avant à travers l'article du Dauphiné, c'est que le cinéma d'animation était quand même très, très présent lors de ce festival de Cannes, avec des choses vraiment originales, singulières, drôles et très, très belles. Et donc ce film en fait partie. Je trouvais aussi que quand j'entendais rire toute la salle, il y a vraiment ce côté international à Cannes, et je me dis qu'il y a quand même des publics qui ont certainement pas l'habitude de voir ça dans leur pays, quand même, aussi, certainement, enfin, parce que c'est vraiment un film ultra débridé, quand même, hein. Il y a quand même des scènes, bon, c'est un cinéma d'animation pour adultes, hein, on précise, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu, voilà, qui sont bien débridées, et je me dis que, bon, ben voilà, je sais pas, partout, au Japon, en Chine, ou je sais pas s'ils voient des films comme ça, mais... Quand j'entendais la salle se marrer autant, je me dis, bon, ça fait du bien. Et ça unit, enfin voilà, ça permet cette union face à une œuvre un peu particulière et qui a défrisé un peu la croisette, ça fait pas de mal. Voilà.
Oui, je trouve que l'écriture, elle est stratégique dans ce sens-là. C'est que l'humour, voilà, on rigole de ces choses que peut-être on ne connaît pas, qu'on découvre, etc. Et bah, c'est ça l'enjeu, enfin... De présenter un univers qu'on ne connaît pas et que peut-être on rejette de ce fait. Hein. Mmh. Et voilà, pas à pas, cette quête qui nous mène dans les pas de Lucien auprès de tous ces personnages nous permet de découvrir cet univers et donc peut-être de l'accepter, de le réfléchir autrement. Et pour moi, ça, effectivement, c'est pari gagné. Mmh.
Puisqu'on parle de films d'animation d'adultes aussi, est-ce qu'on peut dire un petit mot, est-ce que vous voulez dire un petit mot suite à l'annonce de la mort de Marjane Satrapi, qui avait fait en 2007, qui avait mis en animation sa BD, évidemment, Persepolis, c'était en 2007, et puis elle a adapté aussi Poulet aux prunes en 2011, puis bon, elle a fait d'autres films qui n'étaient pas d'animation, notamment... Radioactive sur Marie Curie, Paradis Paris, le dernier. Voilà. Est-ce que vous voulez...
The Voices.
The Voices. Ah oui, The Voices. Ah oui, incroyable.
Ce film. Incroyable. C'est mon préféré de, ouais. De sa filmographie, je crois. Mm. Parce que... Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est... Moi, j'étais très triste et ce que j'avais noté dans un post, cette maladie d'amour, là, c'est à la fois si beau et si triste. Mais bon, ouais, je pense que c'était une personne entière et je suis pas très étonnée de peut-être cette fin. Mais en tout cas, c'est une femme qui a cinéaste, illustratrice, qui a inspiré, je pense, des générations et qui continuera à en inspirer. De par ses œuvres, son engagement aussi politique et auprès des femmes en Iran. Moi, ça m'a beaucoup attristée.
Mmh. Elle avait notamment coordonné là, dernièrement l'ouvrage collectif Femme, Vie, Liberté. Mmh. Et je pensais aussi à l'une des cinéastes que tu avais invitée il y a 2 ans, ou c'était l'année dernière, je ne sais plus, Sépide Farsi, qui s'est emparée aussi de l'animation pour adultes, pour parler de sujets qui auraient été sans doute beaucoup plus compliqués à aborder en film non-animation.
Mais c'est clair que Persepolis, ça reste un film qu'il faut montrer et continuer à montrer, parce qu'il y a aussi de l'humour. Enfin, elle a vraiment sa personnalité à travers ce film qui ressort formidablement.
On passe maintenant à un autre film qui a été chroniqué la semaine dernière par René, L'objet du délit, de d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil et Aïdara. Tu l'as vu et tu voulais en dire un mot.
Oui, donc, je vais peut-être arrêter de refaire des films, quoi.
Mais c'est vas-y, vrai. Alors, mais, comment l'aurais-tu refait?
Non, mais c'est vrai que je vais un petit peu dans le sens de René la dernière fois. Ça, je trouve dommage qu'Agnès Jaoui, qui connaît tellement le cinéma, le théâtre, l'opéra, le chant lyrique en général, je trouve dommage qu'elle n'ait pas fait de ce film d'abord un film sur le montage d'un grand opéra, en plus pas n'importe lequel, Les Noces de Figaro. C'est très festif, c'est très joyeux, c'est plein d'amour, c'est plein de... etc. Elle aurait, et puis à l'intérieur, elle aurait pu mettre ce réel problème du harcèlement sexuel, quoi. Alors qu'elle a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire elle a fait du harcèlement sexuel l'objet du délit.
Ouais.
C'est donc le titre du film. C'est le centre du film, et le montage de l'opéra vient faire un décor à ce problème-là. Donc encore une fois, c'est effectivement, je peux donner l'impression de vouloir refaire le film, mais pourquoi pas mettre la construction d'un opéra au centre, avec ce problème qui est réel, hein, du harcèlement sexuel, plutôt que faire un film sur le harcèlement sexuel en se servant de l'opéra comme d'un décor. Voilà, c'est la seule limite pour moi que voilà.
Ben on va garder plus de temps alors pour parler d'un cinéaste qui filme, qui a filmé de nombreux opéras, Philippe Bézia, et qui et qui a produit Nous l'orchestre.
Ce sont 18 violonistes qui vont faire le même geste centième de seconde près. Ça m'impressionne énormément. Force du collectif et de cette volonté de jouer ensemble.
Nous l'orchestre donc de Philippe Bézia, un documentaire tourné pendant 1 an au sein de l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris sous la direction de Klaus Meckley. Je ne sais pas comment on prononce. Et de ses chefs invités.
Finlandais, alors je ne sais pas.
Oui. Qui a eu le grand prix du documentaire musical FIP Paddock cette année. Qui veut en parler d'abord, Cathy?
Oui, alors le documentaire, c'est un documentaire musical de Philippe Bézia qui avait réalisé précédemment notamment les Indes galantes. Il est spécialisé il consacre son cinéma documentaire à la musique classique, au théâtre musical, voilà. Et
il a une vraie immersion à plusieurs niveaux dans ce film. On découvre évidemment qui fait partie de cet orchestre de Paris et le travail de ces musiciens, leur rapport, enfin leur façon de répéter, leur rapport au chef d'orchestre. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui viennent. Hein, ils ont plusieurs temps de répétition. Mais ce qui est fascinant dans le film, c'est aussi, qu'est-ce qu'est cette communauté, enfin, ces individus, hommes, femmes, qui composent cet orchestre, c'est comment, en fait, c'est leur travail, c'est les interactions qu'il y a au quotidien et sur en temps défini, parce qu'il y en a un, ça fait 20 ans qu'il est à l'orchestre, donc c'est vraiment, ou 40 ans, enfin, je ne sais plus. Donc c'est comment ces personnes vivent. Enfin, c'est un peu comme si on va au bureau et puis tous les jours on a son collègue en face et c'est comment on lui parle, comment on interagit, comment on s'énerve aussi après lui parce que voilà, il y a des choses qui...
Il est vraiment trop bête.
Voilà. Et c'est ça qui est fascinant à travers...
Non, c'est pas ce qu'on dit.
À travers ce film, c'est que on a ce regard porté sur un orchestre et sur le travail qu'ils ont et les enjeux qu'il y a derrière, voilà, face à un public, mais c'est surtout cette vie à l'intérieur de l'orchestre et ces interactions entre ces hommes et ces femmes. Et je crois que Philippe Béziers a formidablement réussi son... Enfin, on est pris dedans, enfin, de la première image jusqu'à la dernière. On est complètement avec eux.
Comme un organisme vivant. Et alors, oui. Y a-t-il trop de musique dans ce documentaire?
Ah non, mais pas du tout. Mais pas du tout.
Alors, je serais intéressée de savoir. Exactement, il a été projeté à La Baume, oui. dans le cadre du festival La Baume en musique. Philippe Forget l'a vu, le directeur artistique, et qui est aussi le chef d'orchestre. Est-ce qu'il en a dit quelque chose?
Moi, je n'ai pas cette information à communiquer. Donc, j'aimerais beaucoup, mais peut-être que je l'aurai la semaine prochaine, mais là, je ne l'ai pas vu.
D'accord. Encore. Puisqu'il a été projeté dans ce cadre-là, mais oui. Évidemment, il est toujours à l'affiche au navire, au Benalla.
Enfin, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Philippe Forget.
Parce que... ouais. Ah, tu nous parles d'un film que tu n'as pas vu. Ils sont forts. Et toi, Olivier?
Elle en parle drôlement bien, parce qu'on dirait vraiment qu'elle l'a vu.
Oui,
c'est un film, c'est un documentaire exceptionnel. Je crois que moi ça fait... J'ai envie de dire, ça fait 62 ans que j'entends de la musique symphonique. J'ai jamais pu rentrer dans un orchestre comme ça, quoi. C'est pas possible. 120 musiciens, 90 micros. Oui, à peu près, le truc. Et le documentaire, pour se le représenter avant d'aller le voir, parce qu'il faut aller le voir, pour se le représenter, il faut peut-être se le représenter un peu comme une cathédrale. C'est-à-dire une cathédrale d'images et de sons. C'est-à-dire que tout est monté avec une précision. On voit les musiciens jouer. Ensuite, on les voit écouter leur jeu et le commenter. On les voit commenter le jeu des autres. On les voit commenter la direction des différents chefs d'orchestre. Donc, vous avez plein de petits bouts comme ça qui, à chaque fois, sont visuels et sonores, naturellement. Et tout ça est monté admirablement. Je veux dire, c'est un travail d'orfèvre. Et alors, souvent, on dit « Oh, tel ou tel film, il m'a porté aux larmes, ouais, à un moment donné. » Moi, c'est un film donc de bout en bout. T'es au bord des larmes de joie. Parce que t'es dans la création, t'es dans la conception en permanence. Et alors, ce qu'il faut, je crois, préciser, c'est que le réalisateur, donc, est parvenu à nous montrer que l'alto, le 12e ou 24e alto, qui, dans une pièce de Rimsky-Korsakov, par exemple, aura deux staccato à faire, est d'une certaine manière aussi important que le chef d'orchestre. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, ce film nous donne à voir ça. Et en particulier, donc, c'est tous des pointures. J'ai tous ces musiciens, le contrebassiste, celui qu'on entend parler des violonistes, c'est celui qui joue du cor anglais. Et il fait un solo à un moment donné sur un concerto, le concerto en sol de Ravel. C'est une merveille. Il y a celui qui joue du cor dans L'Oiseau de feu de Stravinsky. L'Oiseau de feu? Non, c'est le... C'est pas Stravinsky, l'oiseau de feu. Si, c'est ça, c'est Stravinsky, comme le sacre du printemps. Et ce type-là, qui va prendre sa retraite, qui joue pour la dernière fois, il a une partie qui doit durer, je sais pas, 15 secondes, 20 secondes. Et pratiquement toute sa carrière converge dans ces 20 secondes de corps à l'intérieur de l'oiseau de feu de Stravinsky. Alors, moi, je sais pas. C'est cette harmonie. C'est la Philharmonie de Paris, hein, l'Orchestre de Paris, de la Philharmonie de Paris. C'est ça que le réalisateur parvient à nous montrer. Et que le chef d'orchestre, le chef d'orchestre principal, donc on l'a nommé Klaus Mäkelä, il a 30 ans, il est un extraterrestre. Et les musiciens disent de lui, c'est pas qu'il a pas d'ego, mais il a un ego bien placé. C'est-à-dire c'est un moi de plus, mais qui est au bon endroit, tel violoniste, tel pianiste, tel, etc. Peut-être l'explication, il a été longtemps violoncelliste d'orchestre, donc il connaît parfaitement la position du gars qui est un des 5 ou 6 violoncellistes dans un orchestre de 120 musiciens. Et cependant, il les dirige avec fougue, avec charisme, Et il ressemble, vu de l'extérieur, à presque une caricature de chef d'orchestre, pas dictatorial, mais voilà. Mais non, on voit que en faisant ça, il ne fait que jouer son rôle à l'intérieur d'un ensemble plus grand. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
Ben merci beaucoup, on va terminer là-dessus. Nous, l'orchestre de Philippe Béziat, qui est donc à voir à Aubenas et qui sera au Vence à partir du 17 juin. Merci beaucoup d'avoir été cette harmonie, d'avoir joué votre partition à merveille chacun. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. D'ici là, bon week-end et bon cinoche. Merci, ciao.
Ciao, ciao.